La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.
Bonjour, chers auditeurs. Permettez-moi de vous présenter mes vœux pour la nouvelle année. Dans la continuité de notre émission mensuelle sur la vérité. La vérité vous rendra libre, comme le dit Saint Jean. Dans le critère de la vérité, et très proche de lui, se trouve le critère de la certitude. On entend par certitude l'état de l'esprit qui a l'intime persuasion, la conviction de se trouver en accord avec la vérité. Être certain, par conséquent, c'est porter un jugement qui exclut le doute et toute crainte d'erreur. Nous allons voir comment c'est possible. L'état de certitude n'admet pas de degré. Elle est ou elle n'est pas. Car pour peu qu'il y ait dans l'esprit la crainte de l'erreur, la certitude s'évanouit et elle fait place soit à l'opinion. L'opinion est toujours subjective et douteuse, ou le doute lui-même. Alors, selon la nature des vérités que la certitude permet d'atteindre, nous avons, en premier lieu, et la plus importante, la certitude métaphysique, qui est fondée sur la relation nécessaire des termes du jugement. Ainsi, quand je dis que le tout est plus grand que la partie, l'attribut convient tellement au sujet que le contraire ne peut pas se concevoir. En émettant un semblable jugement, non seulement mon esprit n'admet pas la possibilité du doute, mais il affirme que la contradictoire est absurde et ne peut pas être pensée sans détruire la pensée elle-même et le raisonnement. Le tout est plus grand que la partie. C'est la certitude métaphysique. Ensuite, il y a la certitude physique, qui est fondée sur la constance des lois de l'univers. Seule l'expérience peut me donner cette sorte de certitude, l'expérience scientifique, en quelque sorte. Ainsi, quand je dis que les corps tendent à tomber vers le centre de la Terre, c'est-à-dire sont attirés par la force de la gravité, mon esprit juge que la proposition contraire est fausse parce qu'en contradiction avec tous les faits constatés expérimentalement, mais ce n'est pas absurde car les lois qui sont telles pourraient tout aussi bien être autrement si Dieu avait disposé l'univers d'une manière différente. Donc la certitude physique est une certitude réelle, mais contingente. Et enfin, après la certitude métaphysique, la certitude physique, nous avons la certitude morale. La certitude morale est fondée sur le témoignage des hommes. Quand, évidemment, le témoignage des hommes présente toutes les garanties de vérité. C'est-à-dire que nous avons un grand nombre de témoins qui affirment tous la même chose, sachant que, contrairement à une idée reçue, l'hallucination collective n'existe pas, est un phénomène totalement inexistant et inconnu en psychologie. Par exemple, les vérités historiques et par conséquent, les vérités religieuses qui sont fondées sur le témoignage sont objets d'une certitude morale. Ainsi, quand saint Paul nous dit que plus de 500 frères ont vu Jésus ressuscité et qu'il ajoute dans son épître que parmi ses frères, il y en a encore pendant qu'il écrit qui sont vivants et qui peuvent en témoigner, nous avons la certitude morale qu'il ne ment pas, car il pourrait être démenti par les témoins. Et par exemple, quand nous Prétendons que Napoléon a existé, que Charlemagne a existé, que Jules César a existé, ou que même, encore plus lointain dans l'histoire, Alexandre le Grand a existé, ou Nabucodonosor, encore plus loin. Nous avons des témoignages historiques de témoins, soit qu'ils aient écrit, soit qu'ils aient gravé dans la pierre l'histoire de ces personnages. Nous avons des témoignages concordants, nombreux, qui nous permettent d'avoir la certitude morale. Le critère de la certitude, c'est donc le signe auquel on peut reconnaître qu'une chose est vraie et dont on peut être certain. D'où il s'ensuit que le problème de la certitude consiste à dire à quel signe on peut reconnaître que c'est la vérité que l'on a atteinte, que l'on est certain de la vérité. Alors, divers critères ont été proposés. Il y a d'abord la révélation divine. La révélation divine, je vous le rappelle, c'est ce qui est fondé sur la parole de Dieu. Dieu, qui par définition est un être infiniment omniscient, bon, éternel, et qui donc ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc toute révélation fondée sur le critère de la certitude accordée à la parole de Dieu est certaine. Ensuite, il y a le consentement universel. En particulier, l'amener au XIXe siècle à établir la certitude de la vérité sur le consentement universel. Mais le consentement universel est une notion bien trop soumise à l'addition des subjectivités humaines et aux passions humaines, aux caprices humains, à l'orgueil, à la vanité, à différents sentiments passionnels, et que ce consentement universel ne peut donc être un critère absolu dans l'atteinte de la vérité. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le sens commun, c'est-à-dire le fait que l'on atteigne des vérités morales ou métaphysiques en quelque sorte, l'évidence devant laquelle nous sommes. Par exemple, si je dis le monde extérieur existe, c'est une évidence qui va être difficile à démontrer, mais qui est de sens commun. Je vous rappelle qu'il y a des philosophies qui nient l'existence du monde extérieur et qui prétendent que le monde extérieur n'est que la création de notre esprit, de nos idées. Ce qui est une absurdité même, parce que ça voudrait dire que chef de laboratoire qui sort de son laboratoire le soir, qui tourne la clé dans la porte et qui tourne le dos au laboratoire, le laboratoire n'existe plus. Puisqu'il ne le voit plus, il n'y pense plus. C'est une absurdité. Alors ces critères-là doivent être rejetés parce qu'ils sont insuffisants et qu'ils procèdent d'une défiance injustifiée ou d'un abus injustifié de la raison humaine prise en général ou la raison individuelle, dont il faut beaucoup se méfier si elle n'est pas domptée par la foi. La foi qui éclaire la raison rend la raison certaine. Le critère qui est la marque infaillible de toute vérité, à la fin des fins, est le motif de toute certitude. Saint Thomas d'Aquin le dit, c'est l'évidence. Car si l'on doit démontrer en permanence telle vérité sans s'appuyer à un moment donné sur l'évidence, on va à l'infini dans les démonstrations et on ne parviendra jamais à la vérité. Il faut bien, à un moment donné, admettre la vérité par l'évidence. Mais qu'est-ce que l'évidence ? L'évidence indique que la vérité apporte avec elle une clarté qui la fait briller. L'évidence exerce donc sur notre esprit une sorte de contrainte douce qui le met dans l'impossibilité de douter et de ne pas voir. Je suis certain, parce que je vois que la chose est ainsi et qu'elle ne peut pas être autrement. Et je vois que la chose est ainsi, soit par une intuition directe, soit par une démonstration, soit par un témoignage incontestable qui ne permette pas à mon esprit de croire le contraire. A-t-on besoin d'éclairer la lumière pour voir la lumière? L'évidence, c'est la lumière qui permet de voir la vérité. Et la lumière n'a pas besoin d'être éclairée pour être vue. Alors il y a eu une multitude de fausses solutions au problème de la certitude. Le scepticisme, le raisonnement circulaire, ce qu'on appelle le dialèle, la contradiction. Mais tout ça parvient à un état où l'homme n'est plus en mesure de conclure et demeure comme le jugement en suspens, ce qui est contraire à la nature humaine et à la disposition du cerveau qui est fait pour avoir des conclusions certaines, pour parvenir à la vérité. La vérité, c'est la lumière de l'homme. Et la lumière de la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même « Je suis la vérité, la voie et la vie ».
La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.